Qui êtes-vous, Darius Milhaud? Il y a une chose qui frappe dès la première phrase de vos mémoires, une formule à laquelle vous paraissez tenir, puisqu'elle constitue la phrase liminaire de ces mémoires. Vous commencez votre premier chapitre en disant « Je suis un Français de Provence et de religion israélite ». Par conséquent, vous attribuez à ces deux choses un caractère d'importance tout particulier. Pourriez-vous paraphraser un petit peu?
Je me sens en effet très solidement rattaché à la tradition musicale française. Cela paraîtra peut-être curieux à certains, mais je me sens très étroitement tributaire de la lignée Couperin, Rameau, Berlioz, Bizet, Chabrier.
Rien de très curieux pour qui connaît les traditions de la musique française, mais tout de même, entre le musicien des Barricades Mystérieuses, par exemple, et celui des Coefforts, je dois avouer que l'on ne voit pas très bien tout de suite un lien très étroit.
Il y a chez la plupart des musiciens différentes sources d'inspiration, des sources d'inspiration parallèles, d'origines très diverses et parfois assez difficiles à déterminer parce qu'apparemment inconciliables. En ce qui me concerne, on peut sans doute avoir une impression de contraste, mais tout me paraît devoir s'expliquer assez facilement. Si je revendique Couperin et Rameau, c'est pour ce qui regarde ma musique de chambre, notamment en raison des proportions que je recherche, proportions que je m'efforce d'établir dans des limites mesurées sans développement inutile. Berlioz, surtout pour les grandes œuvres, les œuvres de vaste dimension, et là aussi, j'étonnerai peut-être certains confrères, pour son romantisme, enfin pour la facture de sa musique. Quand j'étais élève au conservatoire, j'ai étudié de très près à la bibliothèque l'œuvre entière de Berlioz. Son orchestration est d'une personnalité telle qu'on en reconnaît l'auteur à deux mesures seulement. Je pense, par exemple, à l'orchestration qui soutient la chanson du roi de Tulé ou à certains fragments d'Harold en Italie. Je pense à la façon dont Berlioz emploie les accords dans le grave sans qu'il n'y ait jamais une impression de lourdeur. C'est là une leçon que l'on devrait écouter et dont on devrait faire son profit. Et puis, comment ne pas être sensible à ce bouillonnement torrentiel qui parfois vous emporte des profondeurs jusqu'aux cimes de l'orchestre. En ce qui concerne Bizet et Chabrier, j'aime cette sobriété, cette extrême simplicité de l'instrumentation qui chez eux m'ont paru salutaire et surtout exemplaire dans la réalisation d'œuvres importantes, lyriques ou symphoniques. Et puis aussi, ceux-là, je les aime tendrement et vous trouverez souvent dans certaines de mes œuvres gaies certains ballets ou certains concertos en particulier, de fréquents hommages à Chabrier, que je me garderais bien de vouloir faire passer pour involontaire.
Oui, ami donc de la concision de nos classiques, autant que du romantisme, de nos rares romantiques, ou plus exactement de notre seul musicien romantique. Voici donc pour le côté français. Français de Provence, dites-vous.
Mais oui, province natale, ville natale, sont loin d'être pour moi des expressions conventionnelles. Latinité, Méditerranée, sont des mots qui ont une résonance profonde en moi. Je suis d'Aix, d'Aix-en-Provence. Chaque fois que j'y arrive par la route, il y a un signe, le cyprès d'Entremont, qui monte la garde au sommet de la descente, conduisant à l'espèce de cuvette au fond de laquelle apparaît le clocher hexagonal de l'église Saint-Sauveur. C'est là un premier signe et qui me donne au cœur ce petit choc émouvant et si doux que l'on ne ressent au revoir d'un paysage ou d'un être aimé.
Mais ce monde méditerranéen qui vous est cher, qui vous est essentiel, c'est un monde qui s'exprime avant tout sur le mode lyrique, il me semble. Estimez-vous que vous êtes essentiellement un lyrique et, comme l'a dit un de vos commentateurs, un de vos musicographes, un poète lyrique qui s'exprime en musique?
Oui, sans doute, si l'on considère, comme je le fais, que l'essence même de la musique est la mélodie. Et je me suis toujours efforcé d'exprimer la ligne mélodique de l'œuvre à laquelle je travaille avec le plus de continuité possible. D'ailleurs, à quoi servirait tout l'arsenal technique dont nous disposons aujourd'hui s'il était exclusivement au service de l'élément poétique dans la création musicale? S'il ne nous aidait pas, sans être trop apparent, à exprimer tout simplement des sentiments?
Voilà qui n'est pas très à la mode dans notre époque d'objectivisme forcené, presque systématique.
Mais oui, il faut bien les appeler ainsi, les sentiments, malgré cette époque. Voyez le vote sec d'Alban Berg. Est-ce que l'on pense en l'écoutant à l'immense construction, à la structure subtile et rigoureuse, aux formes de toutes sortes qui s'y trouvent volontairement assemblées, qui s'y succèdent, et avec quelle logique, avec quelle rigueur et avec quel art? Vous m'avouerez, si vous êtes sincère, que l'on est loin de penser à tout cela en écoutant l'œuvre. On est simplement emporté par le lyrisme humain, par le drame. Sans doute, le côté technique est-il là, présent, tangible, mais complètement dépassé par ce que l'on retient, par ce qui nous soulève et vous étreint. Je crois que c'est ça la musique.
Mais c'est cette question du lyrisme, justement, qui va nous amener, tout naturellement, au second terme de la proposition initiale de vos mémoires, de religion israélite.
Si j'insiste sur le côté religion israélite, c'est que je suis profondément religieux.
Voilà donc ce que vous apportez avec vous lorsque vous faites votre entrée dans l'histoire de la musique. Un Français de Provence et de religion israélite. Vous restez tel, au fond, et vous le voulez ainsi, mais les milieux ou les pays dans lesquels vous avez vécu sont venus modifier cela ou éventuellement l'enrichir, j'imagine. Paris d'abord. Ce premier étage du boulevard de Clichy, où nous avons cet entretien, ce boulevard où vous avez passé une grande partie de votre vie, à deux pas du cirque Medrano, dans le tintamarre de la fête foraine, des manèges, des limonaires, des claquements de carabines, ou au contraire, comme aujourd'hui, dans l'atmosphère paisible de la foire aux croûtes qui vient s'y installer silencieusement le samedi après-midi.
Paris, oui, j'adore Paris, mais mon Paris, c'est celui où j'ai toujours vécu, c'est celui de la rive droite, et surtout ce Montmartre dont vous parlez, mon boulevard de Clichy, ma place Pigalle. Quand je suis sur la rive gauche, je me sens toujours un peu comme un touriste. Émerveillé, certes, mais touriste. J'aime mon modeste appartement où j'habite depuis 1923. Dès qu'il y a un rayon de soleil à Paris, il est pour moi. Et surtout ces dernières années où ma santé me retient souvent prisonnier, le spectacle de ce large boulevard toujours gai et animé est une source inépuisable de distraction. La période de la foire est miraculeuse. Je pourrais faire un carton de tir de ma fenêtre. Le dimanche, surtout, c'est merveilleux. J'ajoute que le bruit ne m'a jamais gêné pour travailler. Du reste, la fête foraine, et je le regrette, est devenue presque silencieuse. Plus de haut-parleurs. Une musique de manège mezzo-piano qui ne donne que l'impression de lointain. Seuls les tirs, et encore y a-t-il maintenant des carabines pneumatiques, conservent-ils un léger fond percussif. Mais je peux travailler aussi dans le calme.
Eh bien, je crois qu'après nous avoir parlé de vos origines profondes, de vos origines ethniques et confessionnelles, vous pourriez nous dire comment et dans quel état d'esprit, suivant quelle impulsion, vous avez abordé la musique, comment le phénomène musical s'est révélé à vous. Vous avez, il me semble, pris le départ comme futur violoniste.
Plus exactement au piano. Mais je ne suis pas devenu pianiste par la suite. Mais enfin, si vous voulez que je sois très précis, je pianotais à 2 ans et demi, puis j'ai commencé le violon sérieusement à 7 ans.
Mais ceci en amateur, comme art d'agrément, suivant l'expression consacrée.
Absolument pas. Je n'ai jamais pensé que je pourrais être autre chose qu'un musicien. Et dès le début, j'ai pensé que le violon ne pouvait être que provisoire. Par contre, il me semble bien, mais j'en suis même tout à fait sûr, que déjà je sentais, je savais, que la composition serait ma vie. À ce point de vue, mes parents ont été admirables et j'ai à leur égard une dette de reconnaissance inépuisable. Mon père aurait pu souhaiter, n'ayant qu'un fils, que je continue les affaires d'amende dont il dirigeait une firme créée au siècle précédent. Mais il ne m'en a jamais exprimé le désir ou même le simple souhait. D'ailleurs, il adorait la musique. Il sentit qu'il devait favoriser ma vocation. Et cette attitude ne fut pas purement platonique. Je dois l'ajouter, car son aide matérielle m'a été assurée jusqu'à sa mort. La seule condition qu'il avait mise à mon départ pour Paris, c'était que je passe mes 2 baccalauréats, et comme il avait raison.
Mais à quel moment et comment vous est venue l'idée de composer? Comment cette idée ou cette volonté sont-elles manifestées d'abord?
J'avais toujours pensé à composer. Mais vous savez, lorsqu'on est enfant, on a toujours des projets grandioses. On prend une feuille de papier à musique et on écrit en tête symphonie. Puis on écrit 4 mesures et on s'arrête. Ou bien on commence un opéra en 5 actes, on met en musique les 2 premières répliques et on en reste là. Ce n'est que quand j'ai envisagé d'écrire des œuvres plus modestes que j'ai pu les terminer et me dire ainsi vraiment compositeur encore qu'apprenti.
Dans vos mémoires, vous racontez que le soir, tout enfant, quand vous étiez sur le point de vous endormir, vous entendiez en imagination une musique d'une extraordinaire liberté et qu'il vous eût été impossible de transcrire. Et vous dites que c'était là un mystère dans lequel vous vous complaisiez, comme en un refuge, où votre langage musical s'élaborait dans les couches les plus profondes de votre inconscient. Est-ce que c'est cette musique-là que vous avez écrite depuis, ou celle que vous écrivez, est-elle très différente de ce que vous entendiez alors?
J'ai en effet rêvé souvent à ces mystérieuses musiques qui me parvenaient à un moment où je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait les écrire, tant elles me paraissaient étranges. Était-ce un signe? Toujours est-il que ce n'est que bien plus tard, lorsque j'ai fini mes études, en entendant ce que j'avais écrit après avoir poussé mes recherches polytonales, dans lesquelles la liberté tonale des lignes mélodiques se déroule sans un contrepoint d'accord, c'est à ce moment-là que j'ai tout à coup réalisé. Alors je me suis aperçu que c'était là la musique à laquelle je rêvais à 14 ans et que j'entendais la nuit résonner au fond de moi-même.
Mais votre vocation, née ainsi spontanément d'un instinct, est-ce qu'elle s'est aussitôt proposée un but précis? Je veux dire ceci, votre production a bien vite montré dès le début que l'on avait affaire avec vous à un réformateur, à quelqu'un qui n'allait pas se contenter de s'exprimer avec le langage traditionnel ni dans les formes traditionnelles. Avez-vous, dès ses débuts, entrevu ou même vu clairement les réformes que vous alliez adopter et exploiter en ce qui concerne le langage et les formes musicales?
Je n'ai eu aucun but précis au départ, mais pourtant je voulais d'instinct éviter certaines formules harmoniques conventionnelles. J'ai effectué ce que vous appelez mes réformes par instinct, sans système préconçu. D'ailleurs, je vous signale en passant que j'aime pas beaucoup le mot réforme en ce qui me concerne. Il suppose une volonté et une conscience qui ne sont pas en cause en l'occurrence, qui n'ont jamais été les miennes. J'ai toujours eu l'impression d'avoir continué, poursuivi ce qui était avant moi, logiquement, dans un esprit de renouvellement et d'évolution normale, mais non absolument révolutionnaire. Je n'ai pas l'impression que dans mon cas, il y ait rupture. Ce que semble indiquer votre mot réforme.
Mais vous avez cependant adopté la polytonalité presque du jour au lendemain. Or, cette apparition de la polytonalité dans la musique française avait tout de même, à l'époque, quelque chose de révolutionnaire.
Oui, mais il n'y avait pas rupture, comme je vous l'ai dit. Tenez, voilà comment j'y ai été amené à la polytonalité. J'avais découvert un petit canon de Bach, un petit duetto en canon, dans lequel la partie supérieure paraît très nettement en ré mineur et la partie inférieure en la mineur. Naturellement, il n'y a rien là de fonctionnellement polytonal, car verticalement, ces deux parties sont combinées de telle façon que chaque accord résultant de ce contrepoint à deux parties appartienne à une tonalité unique. Ceci m'intéressa prodigieusement, d'autant plus que chez certains compositeurs tels que Charles Koechlin ou Igor Stravinsky, j'avais déjà remarqué qu'il y était fait usage d'accords contenant plusieurs tonalités, ou même d'accords traités en contrepoint d'accords.
Et en ce qui concerne les formes musicales, vous avez également montré très tôt une certaine méfiance pour les notions scolaires et académiques traditionnelles.
Ah, ça oui, parce qu'une chose m'a toujours frappé. On nous rebat les oreilles avec les histoires de la forme sonate, et en ce sens, la scola et d'indi voyaient alors triompher leur évangile, leurs idées qui étaient aussi rigides que systématiques, sur les 2 thèmes, exposition, développement, réexposition, etc. Avec en plus toutes les petites chinoiseries du procédé cyclique. Or, je réfléchissais à Mozart. Regardez une sonate pour piano de Mozart, après vous être bien enfoncé dans la tête les principes de la forme sonate à 2 thèmes. Vous ne vous y reconnaîtrez plus. Il y a des sonates de Mozart où l'on peut trouver jusqu'à 10 thèmes pour le seul allegro initial. Et cependant, cela se tient, remarquablement, rien de lâché. Eh bien, c'est du jour où j'ai fait cette constatation qu'est née mon admiration pour Mozart, pour cette liberté dont il fait preuve à l'égard des contraintes classiques. C'est peut-être parce que j'ai essayé aussi d'atteindre à une extrême liberté et à la plus grande richesse possible dans le matériau mélodique, que ma musique donne l'impression de s'écarter des règles formelles conventionnelles. Mais là aussi, je ne l'ai voulu que dans la mesure où ces règles pouvaient ne pas convenir à ce que je voulais exprimer.
Et croyez-vous que le public se rende compte de tout cela? Comment pensez-vous qu'il réagit? D'abord, que pensez-vous d'abord de l'opinion que le public a de vous?
Ça, c'est une question assez difficile, parce que je travaille, je présente une œuvre, et je ne fais absolument pas attention à l'accueil qu'elle reçoit.
Eh bien, il y a quelqu'un qui pourrait peut-être répondre à ma question. C'est votre femme qui est auprès de nous.
Demandez-lui.
Eh bien, Madeleine Millot, qu'est-ce que vous en pensez?
Mais moi non plus, j'ai jamais attaché d'importance aux réactions du public.
Avez-vous toujours eu cette disposition d'esprit?
Oh, il y a très longtemps que je l'ai. J'ai assisté à tous les concerts de Darius. En 1919, j'étais à ses côtés au Châtelet lorsque les sifflets retentirent pendant l'audition de sa seconde suite symphonique.
Et qu'est-ce que ça vous a fait comme effet?
Bah, rien du tout. Je vous dirais même qu'après 30 années de vie conjugale, ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir été auprès de lui les jours de chahut et de tumulte. Les jours de succès, il n'a pas besoin de moi.
Bravo. Et alors, c'est très utile, vous allez pouvoir nous répondre et nous fournir et fournir du même coup à un certain nombre de collègues à vous. La formule, la recette pour être une bonne femme de compositeur.
Moi, je n'ai pas de formule magique. Croyez-vous qu'il y ait une recette particulière? Non, ce n'est pas difficile. Il faut se faire le plus léger possible. Puis changeante, si c'est nécessaire. Moi, je crois qu'une femme d'artiste doit être bohème autant que bourgeoise. Elle doit aussi s'adapter au goût de son mari, mais sans supprimer sa personnalité. Tenez, Millot aime le bruit. Je suis bavarde. Il a besoin de mouvement. La maison est toujours pleine de gens. Voilà, c'est pas plus difficile.
Eh bien, justement, Madeleine Millot vient d'évoquer une époque un petit peu ancienne. C'est l'époque héroïque, l'époque des chahuts. Et je pense soudain à une chose. C'était donc aux environs de 1920. Or, à ce moment-là, ceci va nous amener à parler de votre musique de chambre, à ce moment-là, vous aviez, si j'ai bonne mémoire, écrit un article dans un petit journal de Jean Cocteau qui s'appelait Le Coq, où vous aviez proclamé bravement que vous alliez composer 18 quatuors à cordes, un de plus que Beethoven.
Oui, ça c'est le côté un peu impertinent qui essayait à merveille au ton de la revue. Mais il y avait autre chose. À cette époque, Cocteau venait de publier Le Coq et l'Arlequin, où on y parlait beaucoup de musique en emporte-pièce, du music-hall, et moi, je voulais prendre la défense de la musique de chambre. C'est pour cela que j'ai dit, je veux écrire 18 quatuors. Seulement après, il fallait le faire. Ça m'a pris 39 ans, mais je l'ai fait.
Et vous venez de finir il n'y a pas très longtemps. Mais justement, alors dans tous ces quatuors, vous avez abordé des problèmes techniques un peu particuliers.
Oui.
Systématiquement ou pas?
Non, mais le seul quatuor dans lequel j'ai eu des problèmes difficiles n'est pas un quatuor, ce sont deux quatuors. Le 14e et le 15e que j'ai composés pour être joués séparément et pour être joués également, simultanément, en octuor. Ce qui fait qu'avec deux œuvres, j'en faisais trois.
C'est ça, oui. Et alors, à présent, les quatuors étant finis,
j'ai commencé à explorer les quintettes. J'en ai fait un avec piano, un avec contrebasse et un avec deux altos. Le prochain n'est pas encore à l'horizon.
Alors justement, ce renouvellement du matériel sonore à l'intérieur du quintet, puisque cela vous permet de faire intervenir des instruments qui ne sont plus seulement les cordes, vont vous permettre de chercher dans l'écriture instrumentale un certain nombre de choses nouvelles. Est-ce que vous allez rechercher notamment la difficulté, la virtuosité instrumentale?
Pas pour la musique de chambre, je ne dis pas qu'elle soit facile, mais la virtuosité, je la réserve aux virtuoses. Et j'ai eu l'occasion d'écrire énormément de concertos, et alors là, j'estime que le concerto doit être difficile parce qu'il est écrit pour mettre en valeur les qualités de virtuose d'un pianiste ou d'un violoniste ou d'un violoncelliste, etc.
Mais alors justement, nous allons passer encore à un autre domaine, celui de l'opéra, qui est un domaine que vous connaissez bien, où vous êtes montré extrêmement fécond. Est-ce que dans l'opéra, justement, vous ne faites pas intervenir la virtuosité vocale comme on le faisait il y a 100 ans, d'une façon parfois un peu excessive, c'est vrai?
Non, là, c'est plutôt le domaine du lyrisme, le domaine de l'expression. Évidemment, j'ai eu l'occasion de faire des essais de toutes sortes, puisque mes opéras vont de l'opéra minute, c'est-à-dire de cette petite trilogie dont chaque opéra dure 8 minutes, l'enlèvement d'Europe, l'abandon d'Ariane, la délivrance de Thésée, jusqu'à l'Orestie, dont la troisième partie, Les Euménides, est un opéra en trois actes, puis ma trilogie qu'on appelle la trilogie américaine, c'est-à-dire Christophe Colomb, Maximilien et Bolivar, qui n'ont aucun rapport naturellement entre les uns avec les autres, mais qui ont un fond commun, c'est que ce sont des sujets américains. Et enfin, finalement, le David que j'ai terminé récemment.
Mais puisque vous ne recherchez pas dans vos opéras un travail expérimental quelconque, je crois que vous vous intéressez tout de même à ces expériences que l'on fait actuellement dans le domaine sonore, dans l'exploitation de nouveaux moyens d'expression, et en particulier la musique concrète, je crois bien.
Ah, je vous vois venir. Oui, la musique concrète m'intéresse beaucoup, mais actuellement, il me faudrait beaucoup de temps pour analyser les possibilités que je pourrais extraire des matériaux employés au studio d'essai. Par contre, j'ai voulu faire un travail qui soit basé sur des éléments uniquement musicaux. J'ai composé une série d'éléments qui ont été enregistrés, et avec ces éléments-là, j'ai bâti une œuvre qui s'appelle « Études poétiques » et qui n'est pas de la musique concrète, mais que j'appelle « Montage musical ».
Cela reste de la musique, par conséquent.
Cela reste de la musique, mais qui ne peut pas être exécutée, qui ne peut être jouée ou entendue que par le truchement du microphone et de l'enregistrement.
Et vous pensez exploiter cette veine nouvelle dans l'avenir ?
Mais projet d'avenir, vous savez, ça, c'est assez difficile. Je ne veux surtout pas m'arrêter. Même lorsque ma santé me gêne, je suis décidé à continuer ma vie de compositeur et ma vie de professeur. Car, comme vous le savez, j'enseigne à la fois en Californie et au Conservatoire de Paris, en alternant chaque année, et je ne m'arrêterai qu'à mon dernier souffle.